Là, ça s'est transformé comme de la façon d'eux aussi. Mais il faut toujours passer par, évidemment, si vous voulez, pour échapper à l'anecdote, si je puis dire, il y a toujours ce en dehors de la fragmentation, il y a l'idée de passer du paradis à la parodie. Il y a le fait d'aller dans le carnaval, vous voyez. Il faut pour pouvoir porter les choses plus loin, quoi, vous voyez. Que ça ne soit pas simplement, hier après-midi, j'ai beaucoup souffert, quoi. C'est pas, voilà. Je dessine, j'écris, il y a des jours où je dessine pas, bien sûr, mais sinon il y a des jours où il y a à la fois écriture, dessin, bien sûr.
Il y a des jours où vous n'écrivez pas ?
Oui, bien sûr, oui, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire, il y a des nécessités, mais en principe, il n'y a pas...
Il y a des jours où vous enlevez pas du texte ?
Oui, il y a des jours où je ne peux pas, mais c'est un problème de temps, ça, de vie, quoi, sociale, quoi. Mais sinon, tous les jours, oui, je travaille dessus, je taille dessus, hein. Si je peux, et puis voilà. C'est qu'il fallait que les gens s'intéressent vraiment au texte, et en l'occurrence, les rares rencontres que j'ai eues, comme la vôtre aujourd'hui, c'est généralement des gens qui sont vraiment intéressés par le texte, pas par l'anecdote. C'est surtout peut-être parce que je me dis, bon, d'abord c'est un énorme travail, c'est un peu fatigant, je ne sais pas s'il y aura une suite à ça, et donc c'est peut-être une façon de le notifier, quoi, cette chose-là. Le fait que peut-être, oui, c'est la fin d'un processus, il faut peut-être, voilà. On a toujours, moi j'avais envie que ça finisse tout de suite, bon malheureusement je l'ai traîné pendant de nombreuses années, j'étais débordé par la chose.
T'aimes bien la vache ? Ça vient d'où la vache ?
J'ai une vraie vie ordinaire, etc. quoi. Alors, si vous voulez, d'abord, c'était quelque chose qui était totalement enfoui dans un coffre. L'Espagne, surtout l'Andalousie, la Galice aussi un petit peu. Et donc, ce coffre qui a circulé à Cuba, qui était souvent un anglais, ébéniste, toute une famille d'ébénistes, a contenu un entassement de dessins et de textes différents, que ce soit des poèmes, que ce soit des récits, jusqu'en 84, sans que, enfin, pas sans que personne ne sache, parce qu'il y a une dizaine de personnes qui étaient au Et là, effectivement, il y a eu un moment de coïncidence historique. Et puis après, ça s'est perdu. Donc il aurait fallu peut-être... mais ce n'était pas possible. Tout publier à ce moment-là et puis faire autre chose, quoi. Simplement contempler la nature et puis rester dans une sorte de pur sensationnisme, quoi. Voilà. Mais le grand travail, je vous dis, depuis 2000, c'est quand même le machette. C'est vraiment couper, hein, couper et puis réassembler. Parce que forcément, quand vous coupez, vous êtes obligé de faire un travail de réécriture quand même. Mais simplement, pas augmenter le corpus, parce que voilà.
Et donc, vous détruisez beaucoup de choses
beaucoup.
Qui sont pas archivées.
Oui,
sont...
quand il y a des projets qui ont été abandonnés, même j'ai détruit quelquefois, même des dessins aussi beaucoup.
Sans regret.
Quelquefois, c'est douloureux un peu, mais peut-être parce que c'est difficile à déchirer. Il y avait ces voix-là qui étaient les voix vivantes, et puis il y avait les voix radiophoniques. Enfin, moi, je m'endormais toujours avec des radios. Donc il y avait cette voix, il y avait des voix qui venaient du plafond aussi avec des musiques qui étaient plutôt des musiques arabes ou des musiques andalouses. Et donc ensuite, évidemment, moi, que tout adolescent, j'ai commencé à faire de la radio.
Et voici cette autre phase de père où le malheur tombe pile. Pourquoi dites-vous le mélo ? Le malheur, simplement, ce visage se décompose comme un mort d'un noyé sur la dalle, un masque mou affaissé aux traits effondrés, tous les muscles de la face ayant chu, sous l'effet combiné de la miancérine et des benzodiazépines. Il n'y a pas eu besoin qu'on aveugle ses enfants sous ses yeux, non. Il y a eu cette journée ensuite passée au lit, redevenu enfant malade lui-même pour épouser la douleur du sien. La sœur, la plus jeune sœur de l'enfant malade elle-même, prise à la gorge par le mal dans le petit matin, à 5 heures avant le jour, alors que les poules refusaient de sortir sous les rafales de vent froid. Et la petite lui fit savoir depuis l'école qu'elle était prête à revenir à la maison, en sa compagnie, ne rien faire, tous deux blottis dans des couvertures à écouter les radios amateurs. L'écho des derniers aviateurs, des derniers franchissements de cette même nuit glacée. Qu'on me mure, qu'on m'empale sur un pieu, qu'on m'en accroche d'autres à des poteaux, dit-il, qu'on m'écartèle et qu'on donne mes membres déchirés aux chiens, aux porcs et aux loups. Que je disparaisse parmi des monuments de cadavres, aux têtes et aux membres coupés, dans ce pays ivrogne depuis ce rideau de bêtises. Qu'on tienne ma tête fixe une corde entre les lèvres et qu'on fasse sauter mes yeux avec un poignard pour que je ne voie pas cela. Qu'on me capture comme les rois prisonniers auxquels on fait porter couffins et bonnets d'ouvriers pour construire un tombeau, plutôt que cette angoisse où ma petite reine pourrait mourir, et contre l'afflux des dangers magiques, la carte de mort imprimée peu avant sa naissance, qu'on a retirée voilà peu, le vide du hangar où séchaient les mounaks. Le cristal de gypse en fer de lance, la tristesse du chameau, les motifs monstrueux de la peinture à la détrempe sur les plinthes et des bas-reliefs animaux. Que vive son goût des cerises à pleine main, l'empreinte du shekel, les roses joufflues qu'elle adore, l'odeur suffocante de l'ammoniaque, la crainte de la cave, sa bague de jaspe, le feu de naphte de Chrysler prêt à éclater, l'hysope contre sa toux, le laudanum qu'il me faut, la myrrhe sainte et l'aze fétide, et le sésame indispensable pour ouvrir sur un miracle. Il ramassait des noix quand il a su cette horreur, et ce geste est gravé dans sa tête comme dans ce fruit la forme du cerveau.
La référence et donc cette première partie c'était si vous voulez le moment d'exercice technique donc c'est dans 5 continents et... séparés quand même, voyez, séparés.
Il y avait un frontispice et puis il y avait au-dessous une sorte de d'autres paragraphes. Voilà. Donc c'était divisé et dans les angles, souvent, ou à la place du texte, il y avait la forme des illustrations. Et là, ça reprend un peu le dispositif de bord, avec la différence qu'il y a quand même une continuité centrale du récit. Vous voyez, même si c'est des récits successifs et des narrations qui sont comme des facettes, tandis que dans Or, c'était beaucoup plus éclaté.
Donc je disais, cette partie ogre, c'est là, c'est en récit constitué. Or, ce que je vous disais à l'instant, c'est un peu ce texte très éclaté, mais là qui ne faisait que 200 pages en tout, hein, c'était juste un moment. Et ensuite, il y a une partie que j'appelle O, qui est une sorte de tentative d'écriture néante, où il n'y a aucun procédé, il n'y a pas d'illustration, c'est une sorte d'abrasion, vous voyez, du texte. Et ça a été repris dans les États du monde. Et les États du monde, c'est ce qui est nulle part ailleurs. En gros, c'est la partie globale et finale, en quelque sorte, qui fait que, justement, ce n'est pas séparé. C'est-à-dire, il y a à la fois des parties poétiques, il y a des parties dramatiques. Et là, c'est encore des récits assez suivis et assez longs. Mais ensuite, c'est vraiment des choses beaucoup plus fragmentaires, beaucoup plus éclatées. Un des modèles, j'ai beaucoup de machines que j'adore, comme évidemment Blake, Roussel, des gens comme ça. Mais en dehors de ça, il y avait par exemple soit les choses vues de Hugo, soit les petits textes, vous savez, récit et germe de nouvelles de Hansorn, des choses comme ça, vous voyez, des sortes de condensations. Donc arrêtez le récit juste avant que ça prenne. Non, moi je ne voulais pas que ça prenne. Je voulais que ça arrête, c'est-à-dire qu'il y ait une sorte de flash comme ça, que ça soit lié. Elle esquisse, elle ébauche, un peu comme la théorie de Cousins pour le paysage, si vous voulez, au surgissement, etc. Alors quand même, bien sûr, après, je retravaille dessus. Je
laisse pas non, mais c'est ça qui est fascinant, parce que c'est quand même des œuvres monumentales, dont on sait en plus qu'elles sont des petits fragments d'une œuvre encore bien plus monumentale, parce qu'on est à combien, là, 30 000, 40 000 pages?
Oui, 30 000, en gros, voilà. Je sais pas, un peu plus. Mais quand même, je détruis beaucoup, hein, heureusement, hein, parce que...
Mais qui est quand même, qui reste fragmentaire.
Oui, reste fragmentaire.
Même à l'intérieur de chaque volume, c'est fragmentaire, il y a des poèmes.
Qui se régénère à chaque fois.
Oui, c'est ça. L'idée, c'est le train de bois flottant. C'est la belle image qui me convient. C'est-à-dire, vous avez ces fragments et vous avez un emportement lyrique qui permet que ça ne tombe pas en pâte. C'est Denis Roche qui disait ça, et moi j'ai repris cette image, parce que quand vous mettez un caractère dans le plomb traditionnel, c'est depuis Gutenberg, on attache avec une ficelle, si vous l'attachez mal, les caractères se cassent la gueule, et il appelait ça quand le texte tombe en pâte, Denis. Et il y a un peu cette histoire de la tension, c'est-à-dire, je ne sais pas comment ça se passe, hein, je ne peux pas l'expliquer. Hein. Et donc, si vous voulez, là-dedans, à un moment donné, ça tient ou ça tient pas. Quoi. Voilà. Il faut éviter que ça tombe en pâte, il faut éviter la perte du sens, il ne faut pas que ça soit purement vocalique. Le sens est vraiment important là-dedans. Il faut qu'il y ait une lecture populaire possible de ça, quitte à passer par des moments de mélodrame ou des moments comme ça, changer de registre. Vous voyez, c'est ça l'idée, c'est cette sorte d'emportement lyrique.